RFI est là-bas, mais aussi ici. Niamey, 96.2 FM.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Aujourd'hui se déroule à Londres le sommet mondial sur le planning familial organisé conjointement par la Fondation Gates et le département britannique pour le développement international. L'objectif, c'est de mobiliser la communauté internationale pour permettre à des millions de femmes d'accéder à la contraception sans discrimination ni contrainte. Car encore aujourd'hui, 220 millions de femmes qui souhaiteraient espacer les naissances n'ont pas accès à la contraception. Alors à cette occasion, le journal scientifique Le Lancet publie une série d'études sur le planning familial. Il en ressort, entre autres, qu'il y a un lien entre le taux d'utilisation de méthodes contraceptives et la mortalité maternelle. La mise à disposition de moyens de contraception permettrait en effet de réduire le nombre, évidemment, d'avortements, mais aussi de décès et d'invalidité liés à l'accouchement et à la grossesse. 100 000 décès pourraient ainsi être évités chaque année si les besoins en contraception étaient couverts. Alors les études scientifiques montrent également que cela aurait aussi un impact économique favorable. Alors on en parle aujourd'hui avec Christine Mauger, qui est coordinatrice du programme de coopération du planning familial au Burkina Faso, au Cameroun et à Madagascar, et Marie-Pierre Martinet, secrétaire générale du planning familial. Et vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, nous appeler au 33 1 56 40 18 22. Et dans cette émission, vous entendrez aussi des représentants d'associations au Sénégal et au Burkina Faso. Marie-Pierre Martinet et Christine Mauger, bonjour.
Bonjour.
Merci à toutes les deux d'être là. Alors d'abord, pourquoi cette rencontre à Londres? Je ne sais pas laquelle des deux veut répondre, Marie-Pierre Martinet.
Je pense que cette rencontre s'est faite parce qu'il y a un énorme besoin de mobilisation des fonds et de sensibilisation, on va dire, des gouvernements, que ce soit en termes de pays donateurs ou même des pays, notamment en Afrique ou dans les pays en voie de développement, autour de ces questions et des enjeux d'accès à un service de planification. Pour mémoire, cette question de la planification fait partie des grandes conférences. On a vu Rio qui s'est terminée il n'y a pas très longtemps, Rio plus 20. On a la conférence du Caire sur le développement. Et on sait que l'accès aux services de planification est un élément essentiel des politiques de développement, notamment des pays.
On le sait, mais on n'avance pas beaucoup dans ce domaine, très honnêtement.
On est face à de nombreux freins sur ce sujet, mais justement...
Qu'est-ce que cette conférence de Londres va pouvoir changer?
Alors, je pense qu'elle va mettre en lumière la question des difficultés effectivement rencontrées, c'est-à-dire qu'on va quantifier effectivement l'étude du Lancet appuie ça, puisqu'elle met en lumière ce que tout le monde sait, à savoir de manière très précise, voilà, il y a des mortalités de mères, il y a des mortalités d'enfants, le rapprochement des naissances qui met en péril la santé des femmes. Donc ça va poser ces enjeux-là. C'est aussi le moyen de remettre à l'agenda international ce sujet qui a tendance, il faut bien le dire, à disparaître derrière des questions économiques et... Pour nous, ce qui est aussi important, c'est qu'on va reposer enfin la question de l'autonomie des femmes sur la maîtrise de leur fécondité et quand elles veulent des enfants, évidemment en concertation avec avec leur mari, leur conjoint, enfin que la sensibilisation de la société civile sur ces
questions. Concerne aussi les hommes, c'est ça. Christine Mauger, vous qui êtes en lien avec des associations, je l'ai dit, hein, au Burkina Faso, au Cameroun, à Madagascar, qu'est-ce que ces associations attendent d'un sommet comme celui de Londres?
Qu'est-ce qu'elles attendent? Elles attendent beaucoup plus de moyens pour mener leurs actions sur le terrain.
Donc de moyens financiers, quand
oui,
vous
bien
ça.
Sûr. Oui. Et puis de pouvoir travailler aussi main dans la main, peut-être avec les structures. Ce qui est intéressant aussi, c'est la prise de conscience par les États de ces questions et de les mettre au sens et au centre de leur agenda sur les questions de santé. On voit bien que ça bouge. Il y a eu la conférence de Ouagadougou il y a peu de temps qui a posé déjà la question. On est dans la perspective des objectifs du millénaire. C'est 2015, c'est proche. On voit bien que la question de la santé maternelle et en particulier la question du planning familial est vraiment excessivement à la traîne et c'est vraiment un gros problème et que sur le terrain, ben, les associations elles peinent, elles ont sur ces questions-là, elles n'ont pas de moyens, elles sont démunies en personnel, vous voyez, je veux dire plein de choses
et
comme ça.
Et quand on dit pas de moyens, c'est que clairement il faudrait un accès gratuit à la contraception, c'est
un accès facilité.
Oui, voilà.
Un accès facilité et la question notamment de l'accès aux méthodes contraceptives est un vrai sujet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de moyens pour mener des actions, mais il n'y a pas non plus en face les produits pour justement permettre cet accès à la contraception. Donc il y a un double enjeu. Il y a cette question, on l'a vu, la question de l'autonomie, la question du financement, la question du plaidoyer pour les États et la prise en compte par la communauté internationale comme par les États eux-mêmes de ce sujet au cœur de leur agenda, et la question de l'accessibilité aux services, en étant entendu qu'il faut inclure bien sûr les méthodes, l'accès aux méthodes contraceptives et le choix de la méthode.
Et
là,
méthode,
on a encore un grand chemin à faire.
On y reviendra, et entre autres avec les différentes associations avec lesquelles vous êtes partenaire en Afrique. Mais j'aimerais bien qu'on revienne sur l'article du Lancet que j'ai évoqué en début d'émission, que vous avez aussi évoqué, Marie-Pierre Martinet, qui fait un point justement sur ces questions d'accès au planning familial. Il y a d'abord un article qui dit que effectivement la contraception permettrait de sauver des vies, ce qu'on savait déjà, simplement là c'est quantifié, 100 000 vies sauvées par an.
Marie-Pierre Martinet. C'est effectivement, c'est quantifié, c'est 100 000 vies sauvées par an, c'est des réductions très claires en termes de coûts, en termes de santé, puisque entre les décès, mais il y a aussi les personnes qui effectivement ont besoin de soins et qui vont être, qui vont avoir des difficultés d'accès, faute aussi de structures organisées. Donc on voit bien que c'est toute une chaîne qui, à travers la question de la planification, se pose. Moi, j'ai particulièrement aussi apprécié dans cette étude l'implication, notamment à travers le papier qu'ont écrit donc deux premiers ministres, l'un du Rwanda et l'autre de l'Éthiopie, où ils témoignent de parce qu'ils ont fait au sein de leur pays, ils ont vu notamment l'utilisation en 10 ans, alors c'est pour le Rwanda, l'utilisation des femmes mariées qui utilisaient une contraception, elle est passée de 13% en 2000 à 52% en 2010. Ça veut dire que derrière, il y a toute une chaîne à la fois, on va dire citoyenne, d'autonomie des couples, des femmes et des services de santé qui se met en place et qui répond effectivement à ces enjeux. Baisse de la mortalité maternelle, baisse de la mortalité infantile, santé des enfants, la question du rapprochement, l'enjeu sur effectivement économique pour les familles, notamment dans la capacité à pouvoir faire des études à leurs enfants. Et on sait que les mères particulièrement témoignent, et Christine pourrait le dire, sur la nécessité de donner de l'éducation aux filles. Donc on voit bien que à travers, on va poser effectivement quantifier ça, mais c'est derrière, on va dire, c'est les appuis, c'est la base sur laquelle il faut absolument que tous on s'appuie pour pouvoir faire avancer cette question dans à la fois une prise de conscience individuelle pardon, et collective.
Alors, vous donnez comme exemple le Rwanda, qui est donné comme exemple là, justement dans le Lancet avec un papier du Premier ministre, mais on sait que le Rwanda a bénéficié d'énormément d'aides internationales, entre autres sur les questions de santé.
Ça prouve qu'il y en a besoin.
Ça prouve qu'il y en a besoin, c'est ça. Mais ça prouve aussi qu'il faut une volonté politique, c'est
non,
ça.
Ça prouve aussi qu'on est capable de faire des choses quand on s'intéresse aussi aux populations, je pense notamment à la question des populations les plus pauvres, la question des populations, soit les personnes handicapées aussi, la question des populations déplacées, parce que dans des pays qui sont, on va dire, fragiles d'un point de vue politique, on connaît les déplacements de population, avec tout ce que ça engendre comme difficulté d'accès aux soins et notamment aux services de planification. Et c'est aussi l'enjeu, et c'est aussi un peu le thème du papier qui a été signé par 1292 structures dans le monde de 177 pays à l'initiative notamment de la Fédération internationale de planification familiale, MSI, Marie Stopp International et la Fondation des Nations Unies, pour bien dire aujourd'hui, on a un enjeu qui est celui-là. Il faut aussi s'intéresser à la question des populations qui sont les plus en difficulté en termes d'accès. Et l'accès, il est certes financier, ça c'est facile, il est géographique, il est aussi accès aux méthodes.
Alors justement, Christine Moget, je l'ai dit en début d'émission, vous êtes coordinatrice du programme de coopération du planning familial au Burkina, au Cameroun et à Madagascar. Alors concrètement, comment vous fonctionnez en termes de coopération avec ces pays-là? On va entendre, tout à l'heure, on donnera la parole à une des personnes au Burkina Faso. On a des petits problèmes de ligne téléphonique et de qualité ligne. Voilà, mais on va la joindre. Mais dites-nous un peu comment vous fonctionnez en termes de coopération.
Je voudrais revenir justement par rapport au financement, parce que l'important, c'est les questions de la solidarité entre le Nord et le Sud, entre des États qui pourraient avoir de l'argent et d'autres qui en ont moins. Et sur ces questions-là, je pense que c'est important que les États du Nord se mobilisent. Ils l'ont fait déjà partiellement, mais je pense qu'il y a un bon effort. Il faut continuer, et cette conférence en témoigne, c'est-à-dire autour du G8 qui avait eu lieu à Muskoka, où il y avait eu un engagement ferme sur ces questions-là des États du Nord qui disaient il faut qu'on donne de l'argent pour permettre
mais
cet accès.
Mais c'est un tout petit peu, si vous me permettez, il faut qu'on et
voilà,
faire beaucoup d'actions derrière.
Oui, voilà. Donc derrière, après se déclinent un certain nombre d'actions de financement en direct direction de programmes comme le nôtre, par exemple, puisqu'on va rentrer justement dans ce type de financement où effectivement on privilégie l'information auprès des femmes dans le cadre de. En fait, on s'appuie sur. On est donc dans 3 pays. On s'appuie, on forme des formatrices qui elles-mêmes forment des animatrices. Ces animatrices ont en charge d'animer des groupes de parole dans les quartiers. Et dans ces groupes de parole, eh ben, on aborde les questions de connaissance du corps, l'information. Comment je suis et comment je peux éventuellement prévenir les grossesses que je ne veux pas, comment je peux prévenir aussi les infections sexuellement transmissibles, le sida, les questions de violence. Comment je gère ça vers qui je peux me tourner si je suis confrontée à ces problèmes? Est-ce que je vis de la violence au sein de mon couple? Vous voyez, ces genres de choses. Et donc, nous, on est sur un volet d'information et d'échange et d'écoute avec des femmes dans les quartiers, de Ouaga, de Bobo, de Yaoundé, de Tananarive. Voilà.
Vous voyez, et on va justement donner la parole à Marisol Lomé Zungrana.
Priorité santé, Claire Hédon.
Nous avons au téléphone Marie-Salomé Zungrana, qui est coordinatrice et formatrice d'animatrice de groupe de parole pour le planning familial au Burkina Faso. Marie-Salomé Zungrana, bonjour.
Bonjour Claire Hédon.
Vous connaissez bien mes deux invités, Marie-Pierre Martinet et Christine Moger, du planning familial en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites au Burkina Faso?
Il faut dire que les actions que nous menons au Burkina Faso se font en partenariat avec le mouvement français pour le planning familial qui intervient au Burkina Faso depuis 2003, en partenariat avec une 60aine d'associations et organisations à base communautaire dans le cadre d'un programme santé, sexualité, droits et genre qui est à sa 3e phase et qui se déroule sur plusieurs villes, à savoir Ouagadougou, Bobo du Lasso, dans la région de l'Ouest, Gawa, Koudougou, Ouaibia, Kaya et Tita. Et il faut souligner que ce partenariat avec les associations locales a permis de former un pool de 20 formatrices et de 110 animatrices sur tout le territoire burkinabé. Et ces formatrices et animatrices mettent en place des actions de prévention en direction d'un public cible prioritaire jeune que sont les adolescents scolarisés et non scolarisés, travaillant dans le secteur informel, jeunes filles mariées et filles ayant déjà un ou des enfants dans le cadre de mariage précoce.
Et alors justement, vous organisez des groupes de parole. Christine Moger nous en a dit un mot tout à l'heure. Comment se déroulent ces groupes de parole? Qu'est-ce qui s'y dit? Ça se passe comment? Vous abordez les questions de sexualité comment?
Et il faut dire que les actions que nous menons sur le terrain sont des actions de proximité qui sont effectivement menées sous la forme de groupes de parole constitués généralement de porte à porte dans les quartiers périphériques non lotis et un peu accès à l'information et se déroule en 7 séances. Et au cours de ces 7 séances, les intervenants qui vont vers les populations vulnérables et privilégient une approche globale basée sur le partage et le transfert de savoir. Et cette approche intègre un ensemble de thèmes complémentaires comme la prévention des grossesses que nous abordons, les grossesses non désirées, et la connaissance du corps, le suivi gynécologique, les droits des femmes, les mariages forcés, les violences domestiques, avec un focus sur les moyens de contraception.
Et alors justement, sur ces moyens de contraception, quelles sont les difficultés d'accès à la contraception que rencontrent les femmes burkinabées et peut-être plus particulièrement ces jeunes filles?
Et effectivement, les actions que nous menons sur le terrain nous permettent de mener des actions d'information, d'accompagnement, de déconstruire des barrières et enfin d'accroître le rôle de la femme en la plaçant au centre du processus. Et donc, au Burkina Faso, on note qu'il y a une volonté politique. On peut citer entre autres la prise en compte de la planification familiale dans les documents de politique nationale que sont le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, et la stratégie de croissance accélérée de développement durable, la politique nationale de santé, le plan national de développement sanitaire. On note également parmi les actions prises pour améliorer la planification familiale, on a l'adoption d'une loi sur la santé de la reproduction et on a une mobilisation de ressources. Il faut souligner que l'État alloue chaque année un budget à la PF et les partenaires financiers aussi. Mais ce budget ne suit pas le rythme de la demande.
Ça prouve. Alors, c'est intéressant ce que vous dites là, Marie-Salomé Zungrana. Ça veut dire qu'il y a, à partir du moment où il y a une disponibilité de ces moyens contraceptifs, il y a une demande.
Il y a une demande, mais l'offre ne suit pas cette demande. Et à titre illustratif, je peux vous dire que le besoin non satisfait en matière de planification familiale est passé de 28,9% en 2003 à 31,1% en 2006 en ce qui concerne le Burkina Faso.
Et quand vous dites que les demandes ne sont pas satisfaites, concrètement, ça se manifeste comment pour vous dans un centre de planning familial? Est-ce que ça veut dire que des femmes qui viennent et qui disent « j'aimerais bien avoir un moyen contraceptif », vous êtes obligé de leur dire « on n'en a plus à disposition, il y a soit une rupture de stock, soit on n'en a pas assez »
Non, on ne dit pas ça forcément. On essaie de trouver des solutions palliatives, à savoir leur proposer les produits que nous disposons sur le marché. Parce qu'il faut aussi souligner qu'en dehors du fait que nos besoins ne sont pas satisfaits, il y a des barrières qui empêchent qu'on ait une politique de planification et familiale qui répond aux attentes de la population.
Et c'est quoi ces obstacles?
Et on peut citer entre autres les barrières financières. On note que depuis l'avènement du SIDA, tous les programmes se sont tournés vers ce domaine-là, à savoir le SIDA. Il y a d'autres domaines comme la tuberculose, le paludisme. Le personnel de santé se détourne même de la planification familiale parce qu'ils se disent que c'est un domaine où il n'y a pas l'argent. Donc, il y a une ruée vers les programmes où ils seront beaucoup plus rémunérés. Donc, ça fait que quand les femmes vont vers les centres de santé, on note qu'il y a une insuffisance de personnel de santé.
Une réaction par rapport à ça, Marie-Pierre Martinet, ça prouve bien l'importance d'une conférence comme celle de Londres, puisqu'il s'agit justement de mobiliser des moyens financiers.
Il s'agit de mobiliser des moyens financiers, voire le maximum possible, avec comme objectif, ça vient d'être souligné, la question des personnels, c'est-à-dire la formation des personnels qu'il faut absolument mettre en place, sinon, et de mettre en place ces fameux centres où il y aura un accès, et puis associé à une volonté politique. Marie-Salomé l'a aussi précisé, lever les freins financiers d'accès à la contraception et réintégrer la question de la planification familiale dans l'ensemble du dispositif, parce qu'on sait aussi que le lien entre accès à des contraceptifs et le lien avec VIH-SIDA, l'éducation à la sexualité, sont aussi des mesures qui viennent renforcer les programmes, d'où l'absolue nécessité de mettre en perspective l'ensemble des programmes, que ce soit la lutte contre le SIDA, la tuberculose, etc., mais qu'on ait une approche globale.
Et Christine Mauger, justement, dans votre travail de coopération, c'est aussi de faciliter la formation de ce personnel?
Alors non, nous on ne forme pas les personnels des centres de santé. On travaille, comme Marie-Salomé l'a spécifié, avec des associations qui vont être des associations de type communautaire, soit qui vont être sur les questions de droit, qui vont être déjà aussi sur la lutte contre le SIDA, ou des associations qui vont être des associations de quartier génératrices de revenus. Donc on s'appuie et on forme donc au sein de ces associations des personnes qui vont être en capacité de pouvoir animer ces groupes sur cette question avec cette approche globale de la santé, où on lit la question des droits et la question de...
Merci Christine Mauger et Marie-Pierre Martinet. On se retrouve dans 3 minutes après les informations, donc toujours pour parler de cet accès à la contraception dans les pays en développement. Marie-Salomé Zungrana, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes coordinatrice et formatrice d'animatrice de groupe de parole pour le planning familial au Burkina Faso. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, nous appeler au 33 1 56 40 18 22.